Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le deuxième dimanche de Carême. Un jour, environ 8 jours après ces paroles, Jésus prend avec lui Pierre, Jean et Jacques et monte sur la montagne pour prier. Pendant qu'il prie, l'aspect de son visage devient autre et son vêtement devient d'un blanc brillant comme l'éclair. Voici que 2 hommes parlent avec lui. Ce sont Moïse et Élie. Apparu dans la gloire, il parle de son départ qui doit s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ceux qui sont avec lui sont accablés de sommeil. Se réveillant, il voit sa gloire et les 2 hommes qui se tiennent avec lui. Alors, comme il se sépare de lui, Pierre dit à Jésus,
« Maître, il nous est bon d'être ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »
Il ne sait pas ce qu'il dit. Comme il parle, une nuée survient, qui les couvre de son ombre. Ils frémissent en pénétrant dans la nuée. Une voix vient de la nuée et qui dit,
« Celui-ci est mon fils, l'élu, écoutez-le. »
Quand la voix s'est faite entendre, Jésus se retrouve seul. Eux se taisent. En ces jours-là, ils ne rapportent à personne rien de ce qu'ils ont vu.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges.
Eh bien, commençons par évoquer cette phrase célèbre de Nietzsche. « Je croirai à leur Dieu quand ils auront un visage de ressuscité. » Jésus, avant de mourir, disait au Père dans sa prière, « Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Eh bien, s'il est vrai que Dieu habite notre histoire et notre monde, et qu'il l'habite dans la gloire de Jésus et de ses disciples, oui, nous, chrétiens, qu'avons-nous fait de cette gloire du Christ ?
À quel moment du ministère de Jésus se situe cet épisode?
Eh bien, on pourrait penser que ce moment de transfiguration de Jésus se situe à un moment heureux, un moment où les miracles attirent les foules et que ces foules sont enthousiastes, émerveillées de la prédication de Jésus. Eh bien, ce n'est pourtant pas la place que les récits évangéliques donnent à cet épisode de la transfiguration. Le repas, grand repas des pains multipliés, a certes rassemblé une foule nombreuse, si enthousiaste qu'elle veut enlever Jésus pour le faire au roi. Mais la déception a vite suivi l'enthousiasme car Jésus se refuse à jouer le jeu d'un roi politique. Il invite plutôt ses auditeurs à chercher la nourriture spirituelle, à se nourrir de ce pain de vie éternelle qu'est sa parole. Et à cette invitation, l'évangile de Jean nous dit que beaucoup de ses disciples le lâchent et que c'est à ce moment que Judas pense à le trahir. Jésus pose alors aux 12 la question de confiance. « Et vous, ne voulez-vous pas partir ?» Ce à quoi Pierre va répondre « À qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle. » Ce moment important est ce qu'on appelle la confession de foi de Pierre. Par les autres récits évangéliques, nous savons que cette confession de Pierre sera liée à la passion de Jésus. Écoutons ce qu'en dit Matthieu.
À partir de ce moment, Jésus Messie commence à montrer à ses disciples qu'il lui faut s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort. Pierre, le tirant à part, se met à le réprimander. « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Retire-toi derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des humains. »
C'est donc en un temps véritablement crucial que se situe le moment de la transfiguration. Les foules sont déçues du message de Jésus. Les pharisiens, eux, le traquent, les autorités de Jérusalem s'apprêtent à l'arrêter. Et les disciples ne comprennent pas le choix que Jésus s'apprête à poser. Jésus, en effet, choisit de monter vers Jérusalem, le haut lieu de la foi juive, et on ne comprend pas pourquoi il va ainsi se livrer à la mort. Il aurait pu, en effet, s'enfuir dans les territoires limitrophes qui étaient soustraits à l'autorité des grands prêtres. Oui, Jésus doit-il risquer de se faire arrêter, condamner, exécuter? Doit-il choisir de perdre sa vie et de mettre un terme à sa mission par un cuisant échec? Ou bien de sauver sa vie en espérant reprendre ailleurs ou plus tard l'annonce de son évangile? On sait que Jésus a déjà dit que celui qui veut sauver sa vie la perd, et que c'est celui qui perd sa vie qui la sauve. Oui, quelle est pour Jésus en ce moment la volonté du Père? Quel sens peut avoir de mourir en livrant sa vie? La réaction de Pierre est sans doute venue chercher Jésus au cœur de lui-même comme une tentation qui l'assaille au plus intime de son être. C'est ce que semble nous dire, en tout cas, la violente réplique de Jésus à Pierre, Pierre qui l'accuse de jouer le jeu de Satan. Eh bien, au moment de faire un choix décisif, Jésus a donc besoin de silence pour partager sa réflexion avec Dieu son Père. Et c'est donc une semaine après cet événement de la confession de foi de Pierre que Jésus décide de partir dans un endroit solitaire pour réfléchir, et il va faire vivre à trois de ses disciples ce temps fort de prière qui devrait leur faire comprendre les vues de Dieu sur sa mort, sur sa passion prochaine. Les trois disciples choisis seront en effet les mêmes qui vivront de très près l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. En effet, ce sont Pierre, Jean et Jacques que Jésus prendra avec lui dans ces deux moments uniques, dont le premier, la transfiguration, va préparer et donner sens au second. C'est sur la montagne, de nuit probablement, que se déroule ce grand moment de prière. Le lieu et le moment sont habituels à Jésus. La montagne, c'est le lieu où l'on monte vers le ciel, le lieu où l'on trouve le silence, loin des bruits et des agitations de la plaine. C'est donc un lieu privilégié de la rencontre avec Dieu. Luc est certainement l'évangéliste qui signale le plus fréquemment la prière de Jésus. Il nous le montre en prière chaque fois qu'une décision est à prendre, au début de sa mission, lorsqu'il va choisir les 12, à l'approche de l'arrestation. En cette nuit, sa prière sera tout imprégnée des Écritures sacrées.
Que signifie la présence de Moïse et d'Élie?
On nous dit que Jésus s'entretient avec eux de ce que Luc appelle son exode, un mot qui signifie une sortie, et là il s'agit de la sortie de ce monde et donc de sa mort. Ces deux personnages de l'histoire d'Israël sont ici pour représenter sans doute toute l'Écriture. On sait que plus tard, sur la route d'Emmaüs, le ressuscité parcourra les Écritures saintes pour donner aux deux disciples la raison de la passion.
Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans la gloire? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait.
Alors est-ce qu'il nous faut trouver dans la vie de Moïse et d'Élie un message précis qui viendra éclairer la décision de Jésus? Les spécialistes nous rappellent que la tradition juive voyait en Moïse et en Élie deux prophètes qui devaient revenir quand Dieu choisirait un Messie. La Bible dit que Dieu avait promis d'envoyer un prophète semblable à Moïse.
C'est un prophète comme moi que le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi. C'est lui que vous écouterez.
Voilà un passage donc tiré du Deutéronome au chapitre 18. Et la tradition voulait qu'Élie devait revenir sur terre pour précéder la venue du Messie. Voici ce qu'un texte rabbinique disait.
Johanan ben Zakkai a dit, « Dieu dit à Moïse, quand j'enverrai le prophète Élie, vous devrez tous deux venir ensemble. »
On disait aussi que ni l'un ni l'autre n'avaient connu la mort, ni Moïse ni Élie, mais que c'est vivant qu'ils avaient été réunis à Dieu. Mais cela ne dit encore que peu de choses pour justifier la présence de ces deux prophètes en ce moment décisif. S'ils éclairent le choix de Jésus, c'est qu'ils doivent avoir un lien avec le chemin que Jésus choisit. Or, quel est le choix de Jésus? Il doit affronter les chefs de son peuple pour essayer de convertir leur idée de Dieu. Les anciens, les prêtres, les scribes sont unis pour mettre Dieu de leur côté, du côté des justes, des pratiquants, de ceux qui appliquent avec fidélité la Torah qui est l'enseignement de Dieu. Écoutons comment Luc rapporte la prière de ces gens qui se pensent justes et qui pensent vraiment mériter l'amour de Dieu par leur bonne conduite.
Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des humains, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce percepteur d'impôts. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers.
Eh bien, Jésus, lui, parle de Dieu d'une autre manière. Il a une autre image de celui qu'il appelle dans sa langue Abba, ce qui veut dire papa. Pour Jésus, Dieu ne s'intéresse pas seulement aux justes, il est bon, dit-il, pour les ingrats et les méchants. Son amour le porte vers les pécheurs et vers les marginaux de la société, ces marginaux que sont les pauvres, les mendiants, les malades, les illettrés, les émigrés. Le Dieu de Jésus ne se laisse pas annexer par le groupe des bien-pensants. Sa manière d'être le Dieu de tous en fait d'abord le Dieu des exclus et de ceux pour qui la bonne société religieuse n'a que mépris. Un des rares exemples de la prière de Jésus rapportée par les évangiles traduit bien cela.
Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux instruits et de l'avoir révélé aux tout-petits.
Eh bien, que veut dire ce « cela » qui a été caché aux sages et aux instruits? Eh bien, c'est le mystère du projet de Dieu sur le monde. Dieu se fait connaître non pas à ceux qui pensent le trouver par leur propre mérite, mais à ceux qui vont accueillir son amour comme un pur don, un don gratuit. Voilà quel est le Dieu de Jésus. C'est le Dieu de la miséricorde avant d'être le Dieu de la justice. C'est le Dieu qui est libre dans sa bonté. Et la gratuité de son amour se manifeste particulièrement lorsqu'il donne à ceux qui n'ont aucun mérite à faire valoir. C'est le Dieu qui est un faible pour les laisser pour compte, les exclus. Et c'est précisément pour cette doctrine sur Dieu que Jésus est rejeté et qu'il sera condamné. C'est probablement cette vision de Dieu que Moïse et Élie vont venir approuver pour conforter Jésus et les disciples.
Comment Moïse et Élie approuvent-ils cette vision de Dieu?
Eh bien, il y a un élément qui est commun à Moïse, à Élie et à Jésus en cet instant, c'est qu'ils ont fait tous trois une rencontre spirituelle particulière et forte avec Dieu sur la montagne. Rappelons-nous ce passage de la vie de Moïse, il avait imploré Dieu. « Si je jouis de ta faveur, daigne me révéler tes voies pour que je te comprenne. » Et Dieu demande à Moïse de monter sur la montagne et c'est là qu'il va lui révéler qui il est. Dieu passe devant Moïse et sa voix se fait entendre.
« Je suis Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. »
Voilà donc pour Moïse quel est le visage de Dieu, tendresse et miséricorde. Et l'expérience d'Élie est quelque peu semblable. La Bible nous décrit qu'Élie est découragé, il a été animé d'un zèle fougueux pour Dieu, et son zèle l'a conduit à faire mourir les faux prophètes, les juifs infidèles. Il en a fait tuer 900 d'entre eux. Eh bien, ce zèle ne semble pas mener à la vraie victoire de Dieu.
Je suis resté seul, et ils veulent me tuer. Dieu prend ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères.
Eh bien, devant ce Élie découragé, Dieu le conduit lui aussi sur la montagne. Et là, il va se manifester à lui. Mais ce ne sera pas dans le vent et le tonnerre. Vent et tonnerre qui sont les symboles d'un Dieu qui manifeste sa puissance avec force. Il va se montrer à Élie dans le bruit d'une brise légère. Et Élie redit à Dieu sa déception.
« Seigneur, ils ont tué tes prophètes, rasé tes autels, et moi je suis resté seul, et ils en veulent à ma vie. »
Élie s'étonne. Comment Dieu peut-il permettre que son peuple lui soit si infidèle? Pourquoi Dieu ne réagit-il pas en punissant son peuple comme lui, Élie, a puni les faux prophètes, adorateurs des faux dieux? Et que répond la voix divine? Je me suis réservé 7000 fidèles en Israël.
Que signifie cette réponse?
Eh bien, 7000 est un chiffre parfait, on le sait. Et donc, il représente l'immense foule de ceux qui ont accueilli la miséricorde et le pardon de Dieu. À l'époque de Jésus, l'interprétation juive comprenait cette réponse comme étant vraiment le signe de la miséricorde divine. Écoutons comment l'apôtre Paul interprète ce texte dans sa lettre aux Romains.
Que lui répond Dieu? Je me suis réservé 7000 hommes, ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ainsi, pareillement, aujourd'hui subsiste un reste élu par grâce. Mais si c'est par grâce, ce n'est pas à cause des mérites de leurs actes. Autrement, la grâce n'est plus grâce.
Alors, on voit que pour Élie, comme pour Moïse, Dieu se révèle comme le Dieu miséricordieux. Voilà peut-être ce que les expériences de Moïse et d'Élie apportent à Jésus. Cette certitude que Dieu est Dieu de grâce et de miséricorde avant d'être Dieu de justice. Oui, c'est pour cela que publicains et prostituées précéderont les justes dans le règne de Dieu, comme disait Jésus. En effet, ceux qui n'ont aucun mérite à faire valoir, comme les publicains et les prostituées, seront en effet davantage prêts à accueillir l'amour de Dieu, car l'amour de Dieu ne s'accueille que comme un don et non pas comme un dû. Dieu est Dieu d'amour, et c'est l'amour qui sauve, et non pas les sacrifices, les offrandes sacrées. Dieu est amour, et ce n'est que l'amour qui peut vaincre le mal. La justice qui punit le méchant est impuissante à transformer son cœur. C'est pourquoi la mission de Jésus sera de traduire cet amour de Dieu pour ceux-là même qui le rejettent et qui vont le condamner à mort. Traduire l'amour ne pourra se faire qu'en livrant sa vie à ses adversaires. On ne peut pas convaincre de la bonté. On ne peut convaincre de la bonté qu'en vivant cette bonté jusqu'au bout, jusqu'au pardon. Et ce sera cette certitude qui va conduire Jésus à la croix, lorsque la voix divine va dire « Celui-ci est mon Fils, mon élu, écoutez-le », ce sera la confirmation que ce message de la miséricorde et du pardon est véritablement conforme à la pensée du Père. Jésus est l'élu du Père. Ce mot d'élu évoque le texte d'Isaïe sur le serviteur de Dieu au chapitre 42.
Voici mon serviteur, mon élu. J'ai mis sur lui mon esprit. Il ne crie pas, il n'élève pas le ton. Il ne fait pas entendre sa voix dans les rues. Ils ne rompt pas le roseau broyé. Moi, Dieu, je t'ai désigné comme alliance du peuple et lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles et faire sortir les captifs de prison.
Jésus est le Fils choisi pour être la lumière d'un nouveau peuple de Dieu qui sera le peuple de la grâce, un peuple qui sera ouvert et ouvert à toutes les nations. Le récit évangélique de Jean traduit cela ainsi. Si la Torah, la règle de vie, nous fut donnée par Moïse, l'amour vrai qui est grâce nous est venu par Jésus. Dieu accorde son amour à tout être humain, quel qu'il soit, juif ou païen, juste ou pécheur. Et cet amour totalement gratuit sera accueilli d'abord par les humbles, les exclus, les démunis. C'est pour témoigner de ce Dieu Père rempli d'amour et de grâce que Jésus va mourir en serviteur souffrant, lui aussi humble et rejeté, exclu des bien-pensants. Sa mort sera le don total de lui-même, une mort d'amour. Sa mort sera vécue en complet accord, en parfaite harmonie avec la volonté du Dieu d'amour, et cette conviction profonde illumine le regard de Jésus. Et Jésus est radieux, radieux de sa communion avec le Père. Il apparaît revêtu de gloire, c'est-à-dire transformé par l'amour, rayonnant de l'amour divin. Son vêtement est aussi éclatant de blancheur. Dans la Bible, La blancheur est symbole de la vie avec Dieu, de la communion avec Dieu. C'est le sens de l'aube qu'on porte pour la liturgie. Le mot aube vient du mot latin alba, qui veut dire blanc. Il y a même certaines églises chrétiennes qui demandent à tous les fidèles de se vêtir de blanc pour l'Eucharistie. Les catholiques ont gardé cette coutume pour les ministres du culte, mais aussi pour le baptême, la première communion, le mariage. Un tel vêtement blanc nous rappelle qui nous sommes, fils et filles du Père qui est amour. Il dit de qui nous sommes aimés et pour quelle vie nous sommes créés. Eh bien, cette expérience spirituelle de Dieu que Jésus fait vivre à Pierre, Jean et Jacques va amener Pierre à vouloir dresser des tentes. Alors pourquoi des tentes? On sait que la fête juive des tentes rappelle le temps du désert, où Israël a vécu sous la tente et où Dieu est devenu son roi. Comme il n'y avait plus de roi Messie à l'époque de Jésus, la fête des tentes célébrait l'intronisation de Dieu comme le vrai roi du peuple. Mais cette fête ravivait l'attente du Messie, le Fils de Dieu qui serait le lieu tenant du roi divin. Et le septième jour de la fête des tentes, le grand Hosanna constituait le sommet de la fête. On demeurait sous les tentes, on se revêtait de blanc, au temple il y avait plein de lumière. Cette expérience de lumière et de blancheur qu'est la transfiguration évoque donc pour Pierre la fête des tentes. Et Pierre doit donc penser qu'est arrivé le moment pour Jésus de se manifester comme le Messie. Mais l'Évangile nous dit que Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Car pour Jésus, être Messie de Dieu, ce sera marcher vers la croix, achever sa mission par le don de sa vie jusqu'au bout. Mystère, mystère que ce chemin de Jésus, cette voie par laquelle il choisit de sauver l'être humain, qui perd sa vie la sauve, répète sans cesse Jésus dans l'Évangile.
En ces jours-là, ils ne rapportent à personne rien de ce qu'ils ont vu.
Les disciples ne pourront rien dire de cette expérience tant qu'ils ne l'auront pas comprise véritablement, c'est-à-dire tant que Jésus ne sera pas monté sur la croix et que sa résurrection ne sera pas venue confirmer que ce destin de crucifié est celui qui est agréé par Dieu. Oui, ne comprenons pas cette montée sur la croix comme si la souffrance était voulue de Dieu pour racheter l'offense, comme si Dieu voulait un sacrifice humain en rançon pour le mal. Ne comprenons pas cette montée sur la croix comme si Dieu nous voulait des moutons résignés, plus ou moins lâches, refusant de combattre le mal. La croix est au contraire le signe d'un amour puissant et fort, d'un amour qui souffre infiniment de tout ce qui détruit l'être humain. Et cet amour s'engage contre le mal et l'injustice. Mais cet amour a aussi un infini respect pour chaque être humain, même pour celui qui veut détruire l'autre. Il sait que celui qui fait le mal se détruit lui-même profondément. Il sait que la violence ne pourra changer le cœur de celui qui fait le mal. La croix ne peut se comprendre que comme le paroxysme de l'amour, le plus haut amour. Car aimer celui qui nous blesse, c'est espérer en lui, c'est croire à la beauté secrète enfouie au plus profond de son être. Préférer sacrifier sa propre vie plutôt que de détruire l'autre, c'est lui dire « je t'aime malgré le mal que tu me fais, je t'aime car je sais qu'au plus profond de toi dort un cœur capable d'aimer, un cœur souffrant même de ne pas aimer, car toi aussi tu es fait pour être aimé et pour aimer. »
Nous vous avons fait connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Messie pour l'avoir vu de nos yeux dans tout son éclat. Il reçut de Dieu, le Père, honneur et gloire. Quand la voix venue de la splendeur magnifique de Dieu lui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, mon élu. » Cette voix, nous-mêmes nous l'avons entendue venant du ciel quand nous étions avec lui sur la montagne sainte.
Dans sa deuxième lettre, Pierre parle ainsi avec force de cette expérience de la transfiguration. Mais c'est qu'alors, Pierre a fait l'expérience du ressuscité. Eh bien, ce témoignage de Pierre doit conforter notre propre foi dans la puissance qui est celle de la bonté et du don de l'amour sur toutes les forces du mal. Encore aujourd'hui, nous avons besoin de témoins. Citons quelques lignes de Luc Balbon dans sa biographie de Mère Teresa.
J'ai été saisi par cette femme. Rien qu'en regardant son visage, j'ai senti que cette sœur chrétienne était dans le vrai. Avant même qu'elle ne dise un mot, j'ai su que ses propos étaient ceux de l'amour universel. Cette femme est une manifestation divine. Elle est un témoin du divin. En elle, le don total de soi se transforme en joie, en amour, en lumière. Lorsque nous rencontrons de tels êtres, nous pressentons une transparence qui s'ouvre sur une lumière plus forte que nos ténèbres. Cette joie qu'elle porte en elle, elle en fait don et la partage avec les plus pauvres, sans rien demander, sans rien attendre en retour. L'étincelle qu'elle donne à ceux qui l'approchent finit par allumer un brasier d'amour. Là, peut-être, commence déjà l'éternité.
Chez Mère Teresa, chez tant d'inconnus, comme chez Jésus, le Fils bien-aimé du Père, le don total de soi se transforme en joie, en lumière. Car celui qui se donne ainsi ouvre large son cœur à l'Esprit divin, et quand l'Esprit de Dieu envahit un cœur humain, il le remplit d'une paix radieuse que rien ni personne ne peut lui enlever. Oh, certes, l'intensité de cette présence rayonnante de l'amour se laisse percevoir comme encore voilée pour nous qui sommes dans ce monde. Un peu comme se perçoit à l'aurore la splendeur éclatante du soleil à travers la nuée matinale. Mais au-delà de la mort, lorsque nous serons dans l'éternité, le rayonnement de l'amour de Dieu nous transfigurera, parce qu'alors nous le connaîtrons et le verrons dans la pleine lumière, comme nous le dit Paul dans la première lettre aux Corinthiens.
À présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse, mais alors ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée. Alors, je connaîtrai comme je suis connu. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
256-4110. Vous pouvez vous abonner pour 3 mois, 6 mois, au feuillet ou aux cassettes. Téléphonez-nous, nous vous donnons les tarifs. Vous nous trouverez aussi sur Internet, notre site www.relaismontroyal.com, Relais Mont-Royal en un seul mot et sans tirer.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.